Conclusion, chapitre 14. Le matin de son exécution, Eustache, que l'on avait logé dans une cellule mieux éclairée que l'autre, reçut la visite d'un confesseur qui lui marmonna quelques consolations spirituelles d'un aussi grand goût que celles du bohémien, lesquelles ne produisirent guère plus d'effet. C'était un ton suré de ces bonnes familles où l'un des enfants est toujours abbé de son nom. Il avait un rabat brodé, la barbe cirée et tordue en pointe de fuseau, et une paire de moustaches, de celles qu'on nomme crocs, troussées très galamment. Ses cheveux étaient fort frisés et il affectait de parler un peu gras pour se donner un langage mignard. Eustache, le voyant si léger et si pimpant, n'eut point le cœur de lui avouer toute sa culpe et se confia en ses propres prières pour en obtenir le pardon. Le prêtre lui donna l'absolution et, pour passer le temps, comme il fallait qu'il demeurât jusqu'à 2 heures auprès du condamné, lui présenta un livre intitulé « Les pleurs de l'âme pénitente ou le retour du pécheur vers son Dieu ». Eustache ouvrit le volume à l'endroit du privilège royal et se mit à le lire avec beaucoup de componction, commençant par Henri, roi de France et de Navarre, à nos âmes et féaux, etc. Jusqu'à la phrase « À ces causes, voulant traiter favorablement le dit exposant », là, il ne put s'empêcher de fondre en larmes et rendit le livre en disant que c'était fort touchant et qu'il craignait trop de s'attendrir en en lisant davantage. Alors, le confesseur tira de sa poche un jeu de cartes fort bien peint et proposa à son pénitent quelques parties où il lui gagna un peu d'argent que Javotte lui avait fait passer pour qu'il pût se procurer quelques soulagements. Le pauvre homme ne songeait guère à son jeu, mais il est vrai aussi que la perte lui était peu sensible. À 2 heures, il sortit du Châtelet, tremblant le grelot en disant les patenôtres du singe, et fut conduit sur la place des Augustins, entre les deux arcades formant l'entrée de la rue Dauphine et la tête du Pont-Neuf, où il eut l'honneur d'un gibet de pierre. Il montra assez de fermeté sur l'échelle, car beaucoup de gens le regardaient, cette place d'exécution étant une des plus fréquentées. Seulement, comme pour faire ce grand saut sur rien, on prend le plus de champ que l'on peut, dans le moment où l'exécuteur s'apprêtait à lui passer la corde au cou, avec autant de cérémonie que si c'eût été la toison d'or, car ces sortes de personnes exerçant leur profession devant le public mettent d'ordinaire beaucoup d'adresse et même de grâce dans les choses qu'ils font. Eustache le pria de vouloir bien arrêter un instant, qu'il eût débridé encore 2 oraisons à Saint-Ignace et à Saint-Louis-de-Gonzague, qu'il avait, entre tous les autres saints, réservé pour les derniers, comme n'ayant été béatifié que cette même année 1609. Mais cet homme lui fit réponse que le public qui était là avait ses affaires et qu'il était malséant de le faire attendre autant pour un si petit spectacle qu'une simple pendaison. La corde qu'il serrait cependant le poussant hors de l'échelle coupa en 2 la répartie d'Eustache. On assure que lorsque tout semblait terminé et que l'exécuteur s'allait retirer chez lui, Maître Gonin se montra à une des embrasures du château Gaillard qui donnait du côté de la place. Aussitôt, bien que le corps du drapier fût parfaitement lâche et inanimé, son bras se leva et sa main s'agita joyeusement comme la queue d'un chien qui revoit son maître. Cela fit naître dans la foule un long cri de surprise. Et ceux qui déjà étaient en marche pour s'en retourner revinrent en grande hâte, comme des gens qui ont cru la pièce finie, tandis qu'il reste encore un acte. L'exécuteur replanta son échelle, tâta au pied du pendu, derrière les chevilles. Le pouls ne battait plus, il coupa une artère. Le sang ne jaillit point et le bras continuait cependant ses mouvements désordonnés. L'homme rouge ne s'étonnait pas de peu. Il se mit en devoir de remonter sur les épaules de son sujet aux grandes huées des assistants. Mais la main traita son visage bourgeonné avec la même irrévérence qu'elle avait montrée à l'égard de Maître Chevassu, si bien que cet homme tira, en jurant Dieu, un large couteau qu'il portait toujours sous ses vêtements et en deux coups abattit la main possédée. Elle fit un bond prodigieux et tomba sanglante au milieu de la foule qui se divisa avec frayeur. Alors, faisant encore plusieurs bonds par l'élasticité de ses doigts, et comme chacun lui ouvrait un large passage, elle se trouva bientôt au pied de la tourelle du château Gaillard, puis, s'accrochant encore par ses doigts comme un crabe aux aspérités et aux fentes de la muraille, elle monta ainsi jusqu'à l'embrasure où le bohémien l'attendait. Belleforest s'arrête à cette conclusion singulière et termine en ces termes. Cette aventure a noté, commenté et illustré, fit pendant longtemps l'entretien des belles compagnies, comme aussi du populaire, toujours avide des récits bizarres et surnaturels. Mais c'est peut-être encore une de ces baies bonnes pour amuser les enfants autour du feu, et qui ne doivent pas être adoptés légèrement par des personnes graves et de sens racis.